Vous écoutez RTL. RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Phil Collins dans La Curiosité et Éric Jean-Jean pour nous raconter le destin de cet incroyable musicien et chanteur. Bonjour Éric.
Salut Éric.
Les amis, vous allez bien?
Mais oui, on est en pleine forme.
Ravi de vous retrouver.
Dis donc, il est en concert à Lyon au mois de juin, Phil Collins. Moi, je croyais qu'il n'allait plus du tout jamais jouer. Il
nous
a quel
aussi,
âge?
Nous aussi. Alors, il y a plusieurs raisons au fait qu'il rejoue. Bon, il est, je pense, on est dans les 70 piges, là, un petit peu. Il est né en 1951, en fait. Là,
c'est un gamin encore, là.
C'est un bébé. Oui, mais il avait des gros problèmes de dos, en fait. C'était son problème. Hein. Il avait, à force de jouer de la batterie depuis qu'il a 5 ans, c'était assez le dos, puis une tournée avec Genesis l'avait vraiment abîmé. Il a dû subir une intervention chirurgicale importante. Et puis aussi et surtout, et c'est vachement important, c'est peut-être ce qui un jour nous rendra Jean-Jacques Goldman. ses enfants ne l'avaient jamais vu dans son rôle
sur
de chanteur, de vedette, etc. Et je pense qu'il avait très envie de montrer ça à ses enfants. J'ajoute que son fils Nicolas joue de la batterie avec lui. Enfin voilà, la boucle est bouclée. Donc on est ravis d'avoir Phil Collins sur scène. C'est un peu dommage, il passe pas à Paris. En même temps, il n'y a pas que Paris en France. Et à Lyon,
ça va être très bien d'aller le voir à Lyon. Quand
deux heures de TGV.
C'est facile. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Est-ce qu'il était toujours aussi alerte quoi?
Oui, il était alerte, mais il voulait plus trop faire de la musique. Il chantait.
Donc c'était en 2010 pour le Grand Studio.
Il était venu dans le Grand Studio en 2010. On l'avait recroisé après pour une interview un petit peu plus tard, mais il faisait plus que des interviews. Il voulait plus trop chanter. Puis il a passé une sale période les années 2000. Donc on y reviendra peut-être.
Oui.
Mais voilà, et il était ravi et surtout de nous présenter ce qui était la musique fondatrice pour lui. C'est-à-dire que quand on est anglais, qu'on est né en 1951, d'abord il y a les Beatles, puis après il y a le reste du monde, et le reste du monde pour lui c'était la Tamla Motown, c'était la Stax, c'était la musique soul music, et en fait dans l'album Going Back il reprenait des standards de la Stax et de la Motown. D'ailleurs, ce qu'il avait déjà fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec cet énorme succès qui s'appelait You Can't Hurry Love.
Attendez ça, Éric Jean-Jean, c'est un tube de la Motown, You Can Hurry
Up? C'est les Supremes qui chantaient ça en 1966. Bah voilà.
Oh là là, il suit trop bien le François Touchard.
François
Touchard,
réveillé.
Il est bien notre DJ.
Cette émission est formidable. DJ F.
On l'écoute un peu?
Ouais.
Donc,
c'est assez rigolo.
Oui, donc là, Eric, vas-y. Allez.
Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez rigolo. Si vous écoutez la rythmique de cette chanson initiale, vous allez reconnaître plein de rythmiques de Phil Collins. Et si vous écoutez la version de Phil Collins, t'entends, c'est pas la même. C'est la même batterie, mais c'est pas tout à fait la même manière de jouer.
Et ça, c'est
la
spécificité. C'est quoi la différence
de... Il appuie sur, je crois, les tomes ou des trucs comme ça. Il a une manière de jouer très particulière.
Et qu'est-ce de ses signatures, c'est ça, Phil Collins?
Sa signature, c'est que c'est un immense batteur de rock alternatif au départ. Hein. C'est comme ça que ça commence. Et puis, il a sur cette chanson-là des Supremes qui est mixée avec une rythmique tout à fait normale. Je vous la fais courte, mais en gros, à la Motown, il y avait tous les musiciens. Les musiciens, c'était les mêmes musiciens pour tous les chanteurs, de Marvin Gaye à aux Supremes. Et ils jouaient tous de la même manière et c'est le même batteur sur tous les disques. Et Phil Collins, il ajoute sa touche rythmique sur cette chanson-là.
Donc il a 15 ans, c'est ça, quand il découvre ces groupes-là, quoi. C'est un ado, c'est vraiment son... C'est quoi? C'est son ADN musical, on peut dire ça, Phil Collins?
Encore une fois, quand on est né en 1951, l'ADN musical d'un Anglais, c'est les Beatles.
D'abord.
On ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux, quand on est adolescent. Et justement, c'est très étrange, c'est comme nous, on a voulu se séparer de la musique de nos parents. Je suppose que Phil Collins s'est séparé de cette espèce de pop ambiante en Angleterre où tout le monde ne parlait que des Beatles, en écoutant de la musique qui venait des États-Unis, la musique noire américaine faite pour les Blancs, qui était celle de la Motown.
Alors, comment, parce que vous racontiez ce concert là de 2010 où il est pas bien, quoi. Il est physiquement diminué. Comment il fait? Il réussissait quand même à jouer de la batterie.
C'était dingue. Après un concert en 2007, enfin une tournée en 2007, il se tasse une vertèbre cervicale et il perd une partie de ses fonctions motrices, notamment sur une main. Et donc, pour continuer à jouer de la batterie, je vous jure que c'est vrai, ce qui est assez dingue, comme il avait plus de sensibilité dans une main, je crois que c'était la main droite, il se souhaité du gaffer, c'est-à-dire un énorme scotch qu'on utilise en technique. Il y en a ici partout dans ce studio. Ouais. C'est un scotch très solide.
J'en ai sur mes lunettes en ce moment. Je casse mes lunettes si ça intéresse quelqu'un qui nous écoute.
Non, hein. Puis vous avez vraiment le talent de Phil Collins.
C'est vraiment quelque chose d'intéressant ce que je viens de dire.
Non, mais il se mettait du gaffer, donc du gros scotch en fait, pour tenir les baguettes de batterie qu'il n'arrivait plus à tenir tout seul. Surtout comme il n'avait pas de sensibilité, il ne savait pas la pression qu'il avait sur ses baguettes.
Est-ce que c'est vrai, Éric Jean-Jean, qu'il ne sait pas lire des partitions Phil Collins?
Mais les Beatles non plus. Et en fait.
Voilà, j'ai de l'avenir.
Et c'est ça qui l'a libéré quelque part et qui en a fait un grand artiste?
Probablement, en fait, c'est ce que disent beaucoup d'artistes qui ne savent pas lire de la musique, et c'est possible. C'est-à-dire qu'en s'émancipant dès le départ des règles de la musique, peut-être qu'il serait devenu un très grand musicien classique, peut-être qu'il serait. Parce que c'est un immense musicien.
En revanche, il joue de plusieurs instruments.
Ouais, il joue du piano, il joue un peu de guitare, pas très bien, mais surtout très très bien du piano. Puis c'est un immense batteur, puis c'est un compositeur.
Phil Collins, c'est deux carrières, Genesis et Phil Collins, lui tout seul, en solo. Tout a commencé par une petite annonce. Groupe cherche batteur sensible à la musique acoustique et à la guitare. 12 cordes, restez avec nous pour la suite des aventures, les curieux sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Denis Bonnec, Thomas Huc.
One More Night, Two Hearts, Heat Wave. Il y a quelques tubes, comment vous dire, dans la carrière de Phil Collins. On découvre
dans
son
métier,
destin.
On appelle ça des tubes de cheval.
Oui, c'est ça. Son destin avec donc Éric Jean-Jean, pour ceux qui nous rejoignent. Vous avez reconnu sa voix. C'est 200 millions d'albums vendus, c'est ça?
200 millions de disques vendus.
C'est un des plus grands vendeurs de disques du monde au monde.
De tous les temps. 200 millions de disques. On est dans la catégorie des Michael Jackson et compagnie. D'ailleurs, c'est très paradoxal parce que c'est pas un type avec un charisme de dingue. Hein. Il est petit, il est un peu chauve. Il est
côté anti-star, quoi.
Ouais, complètement.
C'est de la jalousie qui vous étouffe, là, Jean-Jean. Il est extraordinaire, non, Phil Collins.
Il est formidable, mais avec beaucoup d'ambition. C'est ce qui le caractérise jusqu'à ce qu'il ait compris que tout allait bien, quoi. C'est-à-dire qu'il a, quand il arrive dans Genesis, il a l'ambition, puis après, il a l'ambition de devenir le chanteur de Genesis au départ de Peter Gabriel, qui en est le créateur. Mm-hmm. Et puis, il a l'ambition à un moment de jouer avec les Who, à la mort de Keith Moon, le batteur des Who. Il va même aller voir les autres en disant ouais, je peux être là, mais non, finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre, puis ils l'ont pas fait. Enfin, ouais. Il a même joué avec Led Zeppelin. Il était question que Led Zeppelin se reforme. Il voulait reprendre la place du batteur. Enfin, voilà.
Donc, il y a cette ambition. Et pourtant, ça commence, c'est un peu compliqué, là. Le début de carrière de Phil Collins. C'est d'abord un jeune comédien, c'est ça?
Sa maman, elle travaille dans une agence artistique. Voilà. Mm-hmm. C'est aussi simple que cela. Et lui, il se retrouve dans des castings assez rapidement. Alors, la petite histoire dit lui aussi, d'ailleurs, qui fait partie de Hard as Night des Beatles. Le film des Beatles. Ouais. Mais il est coupé au montage. Et lui, en interview, m'avait raconté en fait que ce qui lui plaisait le plus, c'était d'être au cœur de la matrice. Hein. Je vous le dis depuis tout à l'heure, ce qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est l'importance des Beatles pour les jeunes de cette génération. Mmh. Et donc, en fait, il s'est retrouvé à un moment de sa vie à côté des Beatles dans cette situation. Mais il finira quand même par jouer avec un des Beatles.
Ah oui, il a passé un casting, c'est ça, pour jouer avec George Harrison, mais ça s'est pas si bien passé, ça non plus.
En fait, il a été pris comme musicien de studio parce qu'il est assez bon, ouais. Et assez connu comme musicien de studio avant qu'il n'arrive dans Genesis, et on l'appelle pour le premier album solo après la séparation des Beatles de George Harrison. Il a joué une session, je crois qu'elle n'a pas été gardée au montage parce qu'il avait été considéré comme un peu trop académique.
On est au milieu de l'année 1970, donc il n'a pas 20 ans, et Phil Collins répond à une annonce. Le magazine s'appelle Melody Maker, et donc cette annonce, je vous la répète, c'est « Groupe cherche batteur sensible à la musique acoustique et à la guitare 12 cordes ».
Oui, ça fumait beaucoup de trucs bizarres à l'époque. Non, ouais. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que c'est son copain. Il avait un groupe avant, et c'est son copain qui était guitariste et chanteur qui veut aller répondre à cette annonce. Ouais. Surtout, il suit l'histoire de son pote Ronnie Caril. Ils sont guitaristes dans un autre groupe. Et Ronnie, il a vraiment envie de travailler avec Genesis. Alors donc, ils y vont. Mais Genesis ne cherche pas vraiment un guitariste. Mais son pote, il joue à fond la caisse. Et puis, ils attendent pendant des heures. C'est dans une grande maison. C'est dans les quartiers riches de Londres. Il y a une grande maison. Il y a une piscine. Alors, Phil Collins, il se baigne. Enfin, voilà, il attend que son pote ait joué. Et puis, il joue de la batterie. Puis, finalement, c'est lui qui est pris. Il essaiera d'insister pour que son pote soit pris. Il fera un petit bout de tournée avec eux. Mais ça ne marchera pas. Et c'est lui qui va devenir la star de Genesis par la suite.
Et ben Phil Collins en Genesis, ça donne ça par exemple.
She just knows me and he knows I'm right. I've been
Ça, c'est Weekend Dance, l'album des années 90. Hein. Et dans cette chanson, il se moque des télé-évangélistes américains. Il y avait un clip absolument fantastique, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a beaucoup d'humour hein, chez Phil Collins et chez Genesis. Et le clip vidéo de cette chanson de Jesus He Knows Me, on les voyait justement parodier les télé-évangélistes américains qui sont ultra puissants.
Ouais. Et de quoi il se moque là dans cette chanson, I Can Dance?
Alors, I Can Dance.
On va l'écouter 3 secondes.
I Can Dance,
ça raconte
c'est,
quoi
bah c'est l'arrivée de l'Eurodance des années 90. On a tous connu ça, Sidoni dansait sur les tables.
Bien sûr.
Aussi. Et en fait, les années 90 sont balayées par ce style de musique, la house, la musique bientôt techno, etc. Mm-hmm. Et eux, ils s'appellent Genesis, ils viennent des années 70 et ils disent nous, on ne sait pas danser. Donc, I Can Dance.
C'est pas pour nous,
et vous
quoi.
Les voyez un peu comme ça, façon profil, dessin égyptien, comme ça, sur le clip et puis aussi sur la pochette du disque.
En 1981, Phil Collins décide de se lancer dans une carrière solo. Il garde Genesis, mais il commence à se réaliser tout seul. Et ce soir-là, il y aura quelque chose d'étonnant dans l'air.
Et on vous raconte l'histoire, la belle histoire de cette chanson dans un court instant sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Thomas Hugues, Sidoni Bonnec.
Curieux sont sur RTL.
Phil Collins dans l'œil et l'oreille, bien sûr, les belles oreilles de notre curiosité racontées par Éric Jean-Jean. C'est près de 40 années de carrière, 200 millions d'albums vendus. C'est l'un des plus grands vendeurs d'albums au monde.
Vous vous rappelez que cette levée de batterie dans le film Very Bad Trip?
De quoi
cette levée de batterie, dans le film Very Bad Trip, ils ont piqué un cougar ou un léopard ou un tigre à Mike Tyson en faisant la fête. Oui. Et ils sont tous dans un état. Et à un moment, ils arrivent, ils retrouvent Mike Tyson, ils sont super embêtés parce que quand même, ils ont des ennuis avec Mike Tyson. Et donc, ils arrivent tous les trois et le barbu, qui est le héros de ce film, le sympathique rondouillard, il leur fait signe, Mike Tyson, de rien dire. Et il attend la levée de batterie. Et au moment de la levée de batterie, celle-là, il lui met une droite à la
J'avais oublié. C'est très drôle.
Bon,
voilà, petite parenthèse dans l'histoire de Phil Collins, mais elle est très bonne.
Pourquoi il écrit cette chanson, Phil Collins? À quelle occasion?
La vraie histoire de cette chanson, c'est une séparation avec sa femme. Voilà, In the Air Tonight. I can feel it coming in the air tonight. Je le sens. Et je sais ce que t'as fait. C'est pas bien ce que t'as fait. Je sais, mais regarde pas les gens avec ce petit air. Voilà, je sais que t'es vilain, t'es mauvaise, etc. Et bon, voilà.
Attendez, c'est lui qui s'adresse à sa femme, là.
Il s'adresse à sa femme, oui, qui est partie quand même.
C'est elle qui l'a quitté.
Ouais, elle est partie. Il était très malheureux. Mais c'est un amoureux, hein. Il s'est fait pas mal larguer, en fait.
Pourquoi elle part?
Elle part parce qu'il est en tournée, qu'il n'arrête pas, et qu'à un moment, elle lui dit « si tu repars, je pars ». Et il est reparti, et elle est partie. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est combien de mariages, combien d'enfants?
Alors, c'est beaucoup d'enfants. C'est 5 enfants, c'est 3 mariages. C'est un homme qui a vraiment aimé des femmes, c'est assez beau. Je peux revenir juste une seconde sur In the Air Tonight, parce qu'il y a une légende urbaine autour de cette chanson qui est géniale.
Alors, allons-y.
Donc, j'ai vu ce que tu as fait, je sais ce que tu as fait. Ce qu'il dit dans les paroles, hein, et tu crois que ça va s'arrêter là. Et en fait, il y a une légende qui sort et qui dit que Phil Collins aurait vu un type en train de se noyer avec un autre type à côté de lui qui aurait pu le sauver et qui ne l'a pas fait. Il a retrouvé ce type, il a écrit cette chanson pour lui, et un jour, il est invité, ce type en question, à un concert de Phil Collins. On braque un projecteur sur lui et il chante cette chanson que pour lui. Alors si vous écoutez les paroles en ce sens-là, ça marche. C'est pas vrai du tout, hein. Mais ça marche. Ça marche tant et si bien que cette légende urbaine autour de cette chanson va tourner un peu partout, notamment dans le hip-hop, puisqu'il va y avoir une évocation de ça dans une chanson d'Eminem qui s'appelle Stan. Mmh. C'est un peu, cette chanson, c'est vraiment une histoire de dingue avec la drum machine, tout ça.
Allez, autre chanson, autre tube immense de Phil Collins en solo. Another Day For You In Paradise. Alors là, on est dans les années 2000 dont on parlait tout à l'heure. C'est les années difficiles pour lui.
Oui, alors déjà sur cette chanson, il est question des homeless américains. Encore une journée de plus au paradis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de maison, les gens qui n'ont pas d'argent. C'est la partie sociale de Phil Collins. C'est une chanson intéressante. D'ailleurs, elle a été reprise, vous rappelez, hein, par Les Enfoirés. C'est Jean-Jacques Goldman qui avait décidé justement de faire une adaptation parce que ça collait vraiment très bien au Resto du Cœur.
Pourquoi il souffre dans les années 2000, Phil Collins?
Parce qu'il est à la retraite, parce qu'il est richissime.
Il s'est mis à la retraite ou il a été mis à la retraite? C'est quoi le problème? même.
Non, on ne met pas à la retraite Phil Collins. C'est lui qui décide à un moment que ça va. Et puis surtout, il a raté ses premiers enfants. Un peu comme Johnny Hallyday qui dit.
Il ne les a pas vus grandir.
Il les a ratés. Il ne les a pas vus grandir. Hein. Et donc, il se dit peut-être que je peux justement faire en sorte que ça se passe bien avec les autres. Mais il est en Suisse, dans sa maison de milliardaire, et il s'emmerde. Mais vraiment.
Et qu'est-ce qu'il fait alors pour combler le vide?
Il est très copain avec Jacques et Daniel. Il est copain avec Johnny et Walker.
Et il boit beaucoup.
Et il boit en regardant des. Enfin, il boit. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il attend 55 ans pour devenir alcoolique, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que comme ça, c'est parti assez vite. Mais en fait,
il a pu s'en débarrasser de ça.
Oui. Mais en fait, à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il le raconte dans son autobiographie et c'est vachement joli. C'est-à-dire qu'il dit, je m'ennuyais, je regardais les sports à la télé, je me servais un whisky, puis deux, puis trois, puis le soir, j'étais malheureux, je m'endormais, une espèce de spirale de la loose de ce type-là qui est quand même une des plus grandes stars du monde et qui à un moment se retrouve isolé dans son palais de glace.
Comment il en sort alors de cette spirale de la loose, Phil Collins?
Je suppose avec l'amour de ses enfants, je suppose avec l'envie de faire de la musique.
Il sort pas de nouveaux albums à partir de ces années-là?
C'est-à-dire que le vrai dernier album de Phil Collins, c'est plutôt Testify en 2002, mais pour se remettre un peu en ligne, parce que aussi il a mal au dos, parce que s'il souffre, peut-être d'ailleurs que l'alcool est dû aux antidouleurs qu'il prend massivement, peut-être aussi qu'il a envie de passer de tout cela, mais il va se mettre à travailler sur ses anciens albums et ça va le remettre en jambe, c'est-à-dire il va faire une réédition, c'est lui qui va s'occuper de la remasterisation de ses premiers albums, etc., dont les albums que vous entendez derrière en fond sonore, donc peut-être que c'est ça qui va lui remettre l'envie.
Il a peut-être payé aussi, enfin mené de front une carrière solo et Genesis, ça se paye à un moment, quoi.
Ouais, il s'est auto-soulé d'après ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'on l'a vu, notamment c'est l'homme des années 80, Phil Collins, dans les années 80, 76, quand Peter Gabriel quitte Genesis, cherche un chanteur, puis finalement, ambition encore une fois, il devient le chanteur de Genesis, et puis il mène de front cette carrière Genesis brillante, cette carrière solo brillante, et puis dans les années 80 il est l'homme de la situation, il va faire du cinéma, il va se finir par travailler par Disney aussi, un petit peu plus tard, et on le voit partout à la télévision.
Il y a trop de Phil Collins il sera critiqué d'ailleurs, on dira qu'il est trop populaire.
À cause de ça. Mais c'est aussi parce que ça correspond avec l'arrivée de la chaîne de télé MTV et le fait qu'on va bombarder des clips vidéo. Et lui, il est partout dans tous les clips vidéo. Donc soudain, on va oublier que ce mec a du talent, on va oublier qu'il fait des chansons formidables et que c'est un très grand musicien en disant « on n'en peut plus te le voir partout ».
Mais nous, on l'oublie pas, la curiosité, dans un instant, vous raconte la genèse de cette très jolie chanson. Since I Lost You, la chanson peut-être la plus difficile que Phil Collins ait eu à écrire. Restez avec nous sur RTL Les Curieux.
14h-15h. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Portrait d'un immense chanteur et musicien dans la curiosité, Phil Collins. Éric Jean-Jean, très très belle chanson, Since I Lost You, c'est sans doute l'une des chansons les plus difficiles que Phil Collins ait eu à écrire. Pourquoi ?
Parce que déjà, il décrit l'une des situations les plus difficiles qu'on ait à vivre dans une vie, c'est-à-dire la mort d'un enfant. Vous vous rappelez de cette histoire, j'étais venu vous la raconter, hein, c'est son ami Eric Clapton, qui est un petit garçon, qui ne voulait pas d'ailleurs au départ, hein, puis finalement, il devient papa, quelque part c'est une forme de rédemption pour Clapton, de droguer l'alcoolique, et il a ce petit garçon Connor, et un jour...
Il a 4 ans, c'est ça ?
Il habite avec sa maman, il habite pas avec Eric Clapton, mais Clapton va le chercher. Puis en fait, il y a un problème. Et en fait, le petit garçon s'est défenestré, tombé du 32e étage de l'immeuble de sa maman. Il y avait une fenêtre de la chambre ouverte. Bon, il est mort. Et c'est bouleversant. Ça va donner Tears in Heaven, chanson de Clapton. Et puis, cette chanson que va écrire Phil Collins pour son ami, c'est une preuve d'amitié. C'est une situation terrible. Et c'est la raison sans doute pour laquelle vous posez cette question.
Oui, et puis il y a aussi cette archive qu'on vous propose. 1997, ouais. On est sur une chaîne américaine et Phil Collins raconte le moment où il fait écouter sa chanson, cette chanson à Eric Clapton.
Je l'ai fait écouter à Eric avant de la mettre sur l'album, je voulais qu'il la valide en quelque sorte. Donc je lui ai joué. Je voyais des larmes dans ses yeux et puis il m'a dit, j'en ai écrit une moi aussi pour Connor, il m'a dit qu'il voulait sortir cette chanson en single. Il me l'a joué en direct et m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit « Non, non, ne la sors pas en single. C'est une chanson magnifique, mais pas pour un single. » Et cette chanson, c'était « Tears in Heaven ». Alors, qu'est-ce que j'y connais, oui.
C'est vrai que Tears in Heaven, quelle belle chanson
ah
d'Eric Clapton.
Ah oui, c'était pas un single surtout.
Ouais, c'est sûr.
Non, mais c'est une chanson bouleversante, la meilleure version étant le MTV Unplugged de Clapton.
D'un mot pour conclure, Phil Collins, c'est, il a une bande de musiciens, d'autres grands chanteurs autour de lui, ou c'est plutôt quelqu'un qui est toujours un peu seul aujourd'hui?
Bah, là, pour le coup, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt un peu seul, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui. Je suis pas un intime de Phil
Bien
Collins.
Sûr.
C'est plutôt un peu seul, mais il s'est retrouvé surtout au milieu de tout ce tourbillon que fut d'abord la musique alternative des années 70, et puis ensuite la musique généreuse des années 80, c'est-à-dire que le concert Live Aid, il est l'un des rares artistes à avoir fait les deux concerts, Philadelphie et Londres. Il a pris le Concorde.
Grâce au Concorde, oui.
Il a pris le Concorde pour aller aux deux. Donc en fait, il est dans ces artistes qui ont inventé cette musique alternative, c'est-à-dire qu'ils ont été la suite des Beatles, un peu avec Pink Floyd, tout ça, ils ont inventé cette musique alternative, ils sont rentrés bien plein pied dans la pop musique des années 80, avec tout ce que ça peut avoir d'ailleurs de trucs un peu moyens, d'où le fait qu'il s'auto-agace, pour devenir aujourd'hui une espèce de légende vivante. Alors, j'allais dire à son corps défendant, pas du tout parce qu'il l'a voulu, mais
en n'ayant
pas les armes pour au départ. Enfin, si, il a les armes, je veux dire, il n'a pas le physique, il n'a pas comme quoi, ça veut rien dire. Quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Éric
Jean-Jean,
on retrouve tous les jours sur RTL de Le Drive avec Mathilde Courgeot, 16h-19h, et puis le Grand Studio. Tous les week-ends, on vous embrasse, on vous dit à bientôt.
Salut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.